Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualité. Avec Astrid Ruf et Annette Fern.
Bonjour Annette.
Bonjour.
Annette, c'est toi Annette.
Ah, Annette, c'est moi. Bonjour Astrid.
Bonjour Annette. Mais c'est bien, tu te salues toi-même. De retour de Berlin.
Voilà, de retour de Berlin.
Est-ce que tu as fait du Yiddish à Berlin?
Eh bien, j'en ai fait par Zoom, puisque j'avais des cours, mais non, j'ai pas... Alors, je suis allée dans une synagogue, ma sortie, Frenkelhofer, à Frenkelhof, une ravissante petite synagogue qui date des années 20. Enfin, elle est ancienne, hein. Je dis des années 20, j'en sais rien, mais en tout cas, elle a été construite il y a longtemps. Très, très jolie synagogue qui est devenue ma sortie avec... un mélange entre des choses traditionnelles et puis aussi des moments moins traditionnels, dirons-nous. C'est là que j'ai passé Pourim, dans une ambiance survoltée, je dirais. Et voilà, donc, alors, lorsque je suis revenue le lendemain, le dimanche, puisque j'ai écouté la Megillah samedi soir, et quand je suis revenue le dimanche, on m'a dit, il y avait quelqu'un qui parlait yiddish hier, mais cette personne n'était plus là le dimanche. Voilà, donc j'ai annoncé mon retour, puisque je vais y aller 3 semaines en août, à Berlin, pour une université d'été très sérieuse, et donc j'aurai l'occasion de retourner dans cette synagogue que j'aime bien et où les gens sont très très sympas, c'est très ouvert, c'est très varié, c'est très américain aussi. La plupart des gens viennent des États-Unis, mais il y a aussi des Israéliens et puis même quelques Allemands qui sont là, qui parlent vraiment allemand. Voilà.
Et donc, alors là, tu rencontreras cette personne qui parle le yiddish,
peut-être. J'espère, oui, oui, tout à fait. Voilà, donc ça, c'était mon excursion à Berlin. Et puis, je suis de retour, effectivement. Et donc, comme le disait Sholom Aleichem dans des nouvelles que nous avons lues et relues, dès que Pourim est fini, on commence à préparer Pessah. Donc, c'est le fameux Pessah Putz. Qui a donné chez les chrétiens Osterputz, le nettoyage de Pâques, le nettoyage de printemps. Voilà, donc on nettoie la maison à fond. Nous avons eu des descriptions apocalyptiques de Sholom Aleichem. Et on ne vous en parlera pas aujourd'hui, puisque j'ai trouvé donc, dans le livre de Béla Chagall aussi des descriptions de Pessah. Donc, je rappelle que Béla Chagall est la femme de Marc Chagall, du célèbre peintre. Ils se sont connus jeunes. À l'époque, Chagall n'était pas du tout connu. Donc, les parents de Béla ne voulaient pas qu'il l'épouse. Il est parti à Paris. Il est revenu. Là, il était déjà un artiste assez célèbre. Il a été coincé. Il est venu chercher Béla, en fait, pour l'amener à Paris. Mais il a été coincé par la guerre de 14, donc en Russie. C'est là qu'il a fondé l'école de Vitebsk, puisqu'entre-temps, il y a eu la Révolution. Et puis, ils sont repartis à Paris. Pendant la guerre, ils étaient en Amérique, aux USA. Et c'est là qu'elle est décédée, jeune, en 1944. Mais elle a eu le temps d'écrire des mémoires, ou plutôt des flashs, on peut dire, des petites anecdotes sur son enfance, sous le nom de Brennendick Licht. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les lumières de Shabbat, qui s'appellent Licht, ne se mettent pas au pluriel. C'est-à-dire, normalement, le pluriel de Licht, c'est Lichter, mais quand on parle des lumières de Shabbat, on met le pluriel à l'adjectif Brennendick, mais Licht, lumière. Voilà, donc, ce sont ces lumières de Shabbat qu'elle évoque. Et également toutes les fêtes. Hein, finalement, quand on lit ce livre, on voit qu'elle suit elle suit le parcours des fêtes. Et on a lu déjà des extraits.
Sur Soukhot.
Sur Soukhot.
Mais ce livre est traduit en allemand, mais je ne crois pas qu'il soit traduit en français.
Il faudrait le traduire. Bon, il y a beaucoup de choses à traduire. Je travaille avec mon groupe sur l'autobiographie de Kadia Molodowski, qui est également absolument passionnante. Bon, c'est quand même tous ces livres sont quand même relativement longs, donc il faudrait... peut-être qu'on le fera après, mais je ne sais pas. Bon. Ça prend beaucoup de temps, déjà, pour traduire, pour faire une première traduction, pour ensuite la reprendre, pour que ce soit joli en français. Bon, on n'a pas plusieurs vies, tout ça est compliqué, mais on peut toujours traduire des petits morceaux. Bon, on avait traduit, comme on a dit, pour Sukkot, pour Hanouka, et voilà maintenant Pessah hein, qui arrive. Il y a aussi quelque chose sur Pourri, mais on ne s'en est pas servi cette année. Je crois qu'on avait lu l'année dernière un extrait sur Pourim, parce que je l'ai retrouvé. Mmh. Voilà, donc, là, nous sommes vraiment tout au début, enfin, si je puis dire, de Pessah, puisque l'extrait que je vais lire s'appelle « Boydek Hametz hein, », c'est-à-dire « Chercher le Hametz ». On dit souvent peut-être « Bedikat Hametz mmh. », donc ça sera ou « Hometz » peut-être en yiddish. Donc ça se passe, comme vous le savez, la veille de Pessah, ou même l'avant-veille. Oui, enfin, Erev Pessah, c'est le soir de Pessah. Hein, c'est toujours compliqué dans le, comment dire, chez les Juifs. Erev, ça veut dire en fait le soir où commence la fête. Hein. Mmh. Donc là, c'est l'avant-Erev, donc le jour d'avant encore. Mmh. Donc, on cherche le Hametz, comme vous le savez, on le rassemble et normalement on le brûle, enfin en tout cas chez nous, ici, on le brûle le lendemain matin, donc juste le jour de Pessah, lorsque Pessah commencera le soir. Donc, il y a une heure à laquelle on n'a plus le droit d'avoir du Hametz à la maison, d'habitude c'est vers 10h du matin, le jour même de Pessah. Après se pose toujours le problème du repas de Pessah, du repas pré-Pessah à midi. Qu'est-ce qu'on mange ? On mange en général des pommes de terre. Si on mange rien, ça devient vraiment très long, puisqu'après on mange le repas du Seder très très tard. Ouais. Hein. Donc on essaye quand même de manger quelque chose durant la journée. Bon, comme je disais, on n'a pas le droit de manger ni du pain, ni de la matzah, ni des œufs, ni bon. On
mange. Bon, pas d'œufs non plus.
Mais non, pas d'œufs parce qu'ils sont sur le plat du Seder. Donc on mange en général des pommes de terre. Voilà. Bon, alors ici, nous ne sommes pas là. Ici, vous allez voir qu'on brûle le Hametz déjà le soir. Hein. Alors, ce qui est intéressant, finalement, je me suis rendu compte en réfléchissant sur ce titre, Brennen dicke Licht, c'est qu'elle attache énormément d'importance à la lumière. Et donc, évidemment, quand il s'agissait de Hanouka, c'est logique, hein, puisque Hanouka, c'est la fête de la lumière et on allume des bougies. Mais là, vous allez voir que même dans ce texte-là, la lumière joue un grand rôle. Voilà, donc je commence à le lire. Le jour de Pessah se rapproche, oui, c'est le moins qu'on puisse dire. À la maison, ça boue et ça bouillonne. Voilà, donc cette nervosité des maîtresses de maison avant Pessah, ça c'est partout. L'air lui-même se déplace en tremblant. Est-ce que c'est nettoyé à fond ici et dans ce coin-là ? Tiens, frotte bien le plancher et voilà des chiffons pour Pessah. Rave poursuit chacun qu'elle attrape. Alors cette Rave, je ne sais pas si elle apparaît dans d'autres textes, mais en tout cas ce n'est pas la maman, c'est sans doute une employée, une bonne, qui a l'air d'être une juive. Hein. Mmh. Donc dans ces familles relativement aisées, même s'ils n'étaient pas riches, hein, on avait des personnes à domicile qui faisaient tout, enfin qui aidaient. Je pense aussi que bon, le père, lui, il étudie évidemment, et la mère, elle doit être au magasin, hein, puisqu'à Hanouka, on la voit arriver en catastrophe du magasin. En tout cas, elle n'est pas là. La mère n'apparaît absolument pas dans ce texte. Alors, toi, Sacha, crie-t-elle à la servante chrétienne, va au diable avec ton Hametz. Porte-le dans la cave. Tu le mangeras là-bas avec Ivan. Alors, Ivan, je ne sais pas si c'est un personnage réel. C'est comme ça qu'on désigne les Russes, hein, en yiddish. Donc, peut-être qu'elle veut dire, va le manger. Comme une Russe dans la cave. Je ne pense pas qu'il y ait un vrai Ivan dans la cave. Ève emporte les derniers plats hametziques. Elle les pousse tous en même temps dans une sombre alcôve. Elle utilise toutes ces choses-là toute l'année. Mais là, elle n'en veut plus. Elle ne veut plus les voir. C'est tout juste si elle ne les pousse pas du pied. Elle s'arrête soudain, toute tremblante. Une ombre de farine a scintillé dans le moule de fer noir là où elle fait cuire des brioches et des gâteaux. « Où est votre père ? S'il venait, il brûlerait aussi cette ombre de farine. » Elle pousse le moule dans l'alcôve pour qu'il ne lui pique plus les yeux. La voilà qui s'écorche les mains. Elle voit bien que les bouts de radis jaune ne sortent pas de la râpe. « Quel ennui !» Alors ça, c'est un très joli mot en yiddish. « Onchikenish ». Quel onchikenish que ce Hametz. On n'en sort pas. Les gosses, le maître vous a bien ordonné de retourner votre poche. Qu'est-ce que vous attendez ? Bientôt, votre père va venir brûler le Hametz. Ève plonge elle-même dans les poches. Enfin, Rave, hein, c'est cette Rave qui est là tout le temps, quoi. Oh, ne me chatouillez pas ! Vous allez m'arracher toute la poche en cherchant le Hametz. Alors ça, je pense que c'est un des gosses qui dit ça, hein, puisque elle. Mais il vous voit là, la chave. Ne me chatouillez pas, vous allez m'arracher toute la poche en cherchant le Hametz. Ce n'est pas facile de nettoyer les poches en un instant. Toute l'année, on y a caché tout ce qu'on peut trouver dans la maison ou dans la rue. Mes frères regardent chez qui se sont rassemblés le plus de miettes de miettes dans les coins. Chut, papa arrive. Les poches se retournent vite dans l'autre sens. Voilà, donc l'arrivée du papa qui vient pour cette Buddy Cat Mahamet, c'est aussi pour le brûler. Voilà, on va s'arrêter un petit peu pour écouter
quelque chose. Alors j'ai un fameux CD que j'utilise chaque année à Pessah, qui est américain. Songs My Boob Should Have Taught Me. Les chansons que ma grand-mère aurait dû m'apprendre, mais peut-être qu'elle lui a quand même apprises. Alors je voulais commencer par quelque chose qui n'est pas spécialement doux à l'oreille. C'est un truc, une mélodie un petit peu archaïque, chantée par le remarquable Michael Alpert, qui s'intéresse toujours aux choses un petit peu, comment dire, marginales, oui. Plutôt qu'aux main
classique,
aux trucs que tout le monde connaît, que tout le monde chante. Enfin, disons, il faut dire ça autrement, il a rendu célèbre des choses qui premièrement étaient inconnues, que lui a chantées et a fait connaître, et qui sont devenues mainstream, pour certaines. Celle-ci, non. Ça s'appelle « Das Lied von Matze », donc c'est a cappella, sans accompagnement, avec une mélodie un petit peu assez archaïque, mais c'est très court, vous allez supporter. Et c'est une chanson qui dit, qui exhorte aussi tout le monde à mettre la main à la pâte, c'est le cas de le dire, pour faire des matzot pour un petit peu pour les pauvres, pour les indigents. Ah oui. Que les gens qui passent leur temps à lire des livres mettent la main à la pâte, on les exhorte à avoir une activité concrète pour faire des matzot pour les plus pauvres.
Oui, il y a d'ailleurs une espèce d'impôt, ou en tout cas des dons spéciaux, dont je ne me souviens plus le nom en yiddish, pour que les gens puissent avoir de la matza.
Ah, oui.
Ou alors pour acheter au moins la farine pour faire les matzot.
Voilà, alors là, c'est pour la faire, ce blanche main. Voilà.
Getreie, vernommene und freie, bei wem in sie nur Zeit voran. Geht ein Pratzi und elf Backen Matzi, dem neut bad der Ftiken Mann. Geht ein Pratzi, elf Backen Matzi, dem neut bad der Ftiken Mann. Hent alach ihr Kleine, edeli und Scheine, bich alach ihr Trogen nur kennt. Proof nor wissen, ein Molinissen, dem Tam vom Azolis auf die Hand. Proof nor wissen, ein Molinissen, dem Tam vom Azolis auf die Hand. Ihr gwirische Mädlach, elf Knetten Teiglach, mit Eier weiß in die Hand. Teiglach geknoten, wie Gott hat geboten, koscher und erlach und fein. Teiglach geknoten, wie Gott hat geboten, koscher und erlach und fein.
C'est très très joli, effectivement, et c'est, ça montre la fabrication de matzot, qui est aussi un des éléments très importants de Pessah, un des épisodes, et donc qui demande beaucoup de rapidité, puisqu'il faut, il faut les faire et il faut les faire les cuire très très vite. Tout ça, ça demande vraiment.
De peur que ça ne lève.
Voilà, de peur que ça ne lève, exactement. Et donc c'est tout un système très très complexe, mais les gens faisaient, c'est joli là, d'inviter les riches à faire des maths, pas seulement à donner de l'argent, mais à faire des matzot pour les pauvres.
Tout à fait.
Voilà donc l'arrivée de papa qui vient brûler le Hametz. Le cœur d'Ève bat. Le visage de papa est sérieux, comme si on avait perdu quelque chose dans la maison et qu'il devait le chercher. Son chapeau noir met de l'ombre sur son visage. On lui tend une bougie allumée. Le feu se reflète sur son visage blême. « Vous avez un plumeau ?» dit-il doucement. Tous les enfants le suivent sans un mot. On entend chaque respiration. Le père, avec la bougie et la plume dans une main et une cuillère en bois dans l'autre, ratisse chaque dessous de fenêtre, chaque coin, le plancher, même si on vient de les laver à fond. Il se glisse dans l'armoire à livres, cherche entre les livres du Talmud, donc entre les, oui, les livres de Talmud, cherche dans les gemarotes, pardon, cherche comme si on lui cachait quelque chose. Soudain, il s'arrête sur une miette de chametz qui, malgré le nettoyage, est pourtant cachée dans un coin ou que Ève a placée là avec intention pour que papa n'ait pas trop à chercher. Oui, alors vous savez que la mitzvah, c'est de chercher du chametz et d'en trouver, quoi. Donc, comme la maison a été nettoyée à fond, ben, normalement, on n'en trouve pas. Ouais. Voilà, donc, on dispose du chametz exprès, hein, on dispose plusieurs morceaux, et le père doit les chercher. Bon, il faut se souvenir où on les a mis pour qu'il n'en oublie pas. Et il les rassemble. Donc, on le fait effectivement à la lueur d'une bougie. Normalement, la plume sert à rassembler le chametz, hein, pour qu'il ne reste pas des miettes par terre. Alors là, la cuillère en bois, je ne sais pas très bien à quoi elle sert, peut-être pour passer sous les meubles, je ne sais pas, normalement, la cuillère en bois ne fait pas partie des choses que je connais. Donc, on parle toujours du père, hein. Ses yeux brillent comme l'éclair. La bougie brûle en même temps qu'eux, comme s'il avait trouvé un trésor. Papa attrape toutes les miettes qu'il a trouvées, les rassemble dans une boule de papier et les porte comme des victimes directement vers le poêle brûlant. Le feu se jette sur le paquet. Ses yeux s'enflamment en même temps que le feu qui avale les miettes de chametz. Dieu merci, soupire Ève, ou Rav, nous aurons un Pessah kasher. Voilà, donc cette façon de brûler le chametz, donc il brûle là aussi directement dans le poêle. Alors c'est vrai que nous n'avons plus de poêle, donc en fait on fait brûler le chametz comme on peut dans une soucoupe ou quelque part. Et puis on le jette aussi pour que ne reste plus dans la maison aucune miette de chametz. Ça c'est toujours d'actualité, si je peux dire. Voilà.
Donc cette Rav qui n'est pas juive connaît très bien les juifs,
peut-être. C'est pas clair, oui, c'est pas très clair. Oui, Rav est un nom juif. Déjà, oui. Rav est un nom. Non, non, elle est juive, puisqu'elle dit à la servante chrétienne. Il y a aussi une servante chrétienne.
Ah oui, d'accord.
Voilà, qu'on... Non, je me disais que chez Shalom Aleichem, il y a aussi la mère et aussi une servante, mais juive, qui sont toutes les deux...
Oui,
sociale.
Qu'elle traumatise un petit peu, qu'elle harcèle.
Qui tape le gosse et qui le jette d'un endroit à l'autre.
Oui, mais que la mère fait bosser
aussi. Ah oui,
aussi,
que la mère fait bosser.
Sans arrêt quoi faire.
Oui, la mère l'a fait bosser et du coup, Saucy se venge, si on peut dire, sur le petit garçon qui n'y peut rien. Bon, là, ici, bon, chez Bella Chacal, il y a souvent une ambiance comme ça, douce et bon, pas toujours, mais là, en tout cas, c'est vraiment, bon, c'est en fait la rave la, qui fait tout le boulot et après, les enfants vont suivre le père pour cette Bedikat Chametz, qu'on va illustrer peut-être par une autre musique.
Oui,
ou autre
alors
chose.
C'est pas Bedikat Chametz, mais c'est une chanson, donc elle aurait été écrite par un mortrait Rivesman. Sur une mélodie traditionnelle. Alors, c'est un petit peu la rivalité entre les trois fêtes de pèlerinage, donc Pessah, Shavuot et Sukkot. Quelle est la plus grande, quelle est la plus belle, quelle est la plus joyeuse? Et on compare les trois fêtes. Moi, je connais une chanson chassidique qui parle aussi de ça, qui fait apparaître les trois fêtes de pèlerinage, mais dans le style chassidique, rigolo, c'est-à-dire probablement écrit par des non-chassides qui se moquent des chassidim. C'est-à-dire qu'arrivent les fêtes, et puis, par exemple, pour Pessah, il faut du vin et de la matzah, mais on n'a ni vin ni matzah, mais Dieu pourvoira, et c'est quand même très joyeux. Et pareil pour Sukkot, on n'a ni srach, ni lulav, et voilà, ni esrog, c'est ça l'exemple. Et chaque fois, ça se termine quand même de manière très joyeuse, puisque Hassidim termine tout par la joie et les chansons et un verre de Bronfen. Alors ici, ce n'est pas sur ce mode, mais c'est voilà, une chanson qui compare les trois fêtes de pèlerinage.
Thank you. del Geriontef is de Grestan. Del Geriontef is de beste.
Donc, on vous souhaite un bon Pessarpout, oui. si on peut souhaiter ça.
Bon courage.
Et puis, on vous dit à la semaine prochaine. Oui. Shalom Aleichem.
Shalom et merci Thomas.
Le Yiddish, aujourd'hui. Chansons, musique, littérature, théâtre, événements, actualités.
Avec Astrid Ruf et Annette Fern.